Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la nouvelle que Brisbane va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2032. Les Jeux auront lieu du 23 juillet au 8 août. La décision est tombée hier. Brisbane sera la troisième ville australienne après Melbourne qui a organisé les Jeux en 1956 et Sydney en l'an 2000. On écoute Thomas Bach, le président du CIO.
Brisbane. They're a host which is fully aligned with our reforms, with Olympic Agenda 2020 plus 5. It's a very sustainable project, and it's a project with a great legacy, and it's a project from a sports-loving nation. And this is what it is about, to see the sports-loving Aussies celebrating the Olympic Games.
Et les JO de Tokyo, le cavalier australien Jamie Cummins a été testé positif à la cocaïne et a été suspendu des JO. C'est ce qu'a déclaré hier Equestrian Australia. 6 matchs de foot féminin hier à Tokyo avec l'Australie qui a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Les Américaines perdent face à la Suède 3-0. Les Pays-Bas battent la Zambie 10-3. Le Brésil écrase la Chine 5-0. La Grande-Bretagne bat le Chili 2-0. Le Japon et le Canada ont fait match nul, un but partout. Le foot masculin, c'est à partir de ce jeudi, France-Mexique, comme nous l'explique Martin Guèze pour RFI.
Oui, avec notamment André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les deux Français qui évoluent dans le club mexicain des Tigresses de Monterrey. Ils vont débuter leur tournoi face aux champions olympiques 2012, des Français qui n'avaient plus disputé les Jeux en football depuis 1996 et qui se présentent avec une équipe un petit peu bricolée à la dernière minute car de nombreux clubs n'ont pas voulu laisser leurs jeunes stars s'envoler pour le Japon. Et c'est bien dommage, regrette le gardien tricolore Paul Bernardoni. Ses petits camarades restés à la maison ratent quelque chose.
C'est assez déroutant pour nous parce qu'on vit quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on vit habituellement en club. On est dans une sorte de petite bulle à nous, dans notre tête, tout ça. Là, on est au même niveau que tout le monde, entre guillemets, on est incognito. Et je trouve que c'est une belle leçon aussi d'humilité. Et c'est aussi pour ça qu'on était là, parce qu'on a retrouvé tous ces athlètes, être là, et on est plus que fiers. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on pense quand on est gamin, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vraiment super plaisant d'être là. Et on a vraiment très très envie de se battre pour
Alors, ramener quelque chose, ça commence par France-Mexique. Ça suivra aussi d'un choc Brésil-Allemagne et également Égypte-Espagne, Afrique du Sud, Japon et Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite.
Et maintenant, je vous propose ce focus sur Astrid Guyard pour l'épreuve de fleuret féminin par équipe. Elle prendra sa retraite après les Jeux. Christophe Diremzian, RFI.
Le moment de la sortie de piste définitive est presque arrivé. Un dernier salut, fleuret en main, vers le ciel, l'adversaire, puis le sol. Et Astrid Guyard en aura terminé avec 2 décennies à croiser le fer avec l'élite de l'escrime, mais aussi à déjouer les tentatives de son corps de lui faire dire stop plus tôt. Les alertes se sont multipliées et attendre 2021 pour tirer sa révérence n'avait rien d'évident.
Moi, je m'étais programmée pour l'été 2020. Et mon corps aussi, je crois, quelque part. Et donc, quand il a fallu rajouter un an, on s'est mis d'accord, mon corps et moi. Donc oui, c'est pas neutre. Mentalement aussi, hein, il y a une certaine mesure. Avec le sport de haut niveau et en même temps une aventure olympique. On se dit, allez, rétrospectivement, un an sur 20 ans de carrière, qu'est-ce que c'est? Oui, mais un an en fin de carrière, c'est beaucoup pour le corps. Donc, on a reclarifié quels sont les objectifs et quelque part, j'aurais eu des regrets si j'avais arrêté l'année dernière. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'aller au bout de l'aventure et en plus de partager cette aventure collectivement. Je trouve que c'est une belle façon de terminer sa carrière.
Car une compétitrice comme elle ne peut pas se résoudre à avoir vécu 4 Jeux sans en avoir rapporté la moindre médaille. Remplaçante à Pékin, 10e à Londres, 6e à Rio, il y a comme un mauvais goût d'inachevé à chasser. Se préoccuper des autres, c'est une seconde nature chez Astrid Guyard, déjà très active en dehors du sport. Brillante diplômée en ingénierie aérospatiale, responsable d'un laboratoire de recherche chez Ariane Group, auteur de livres de jeunesse, la voilà depuis avril dernier co-présidente de la commission des athlètes du Comité olympique français. Un rôle logique pour cette femme de conviction.
J'ai cette personnalité engagée qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense sur le sport féminin, notamment au travers de la problématique de la maternité. Comment une sportive en fait arrive à co-construire son projet familial et son projet de performance sportive. D'autant plus là, avec l'Olympiade de 3 ans qui nous attend entre Tokyo 2021 et Paris 2024, il y a plein de sujets liés au cycle menstruel, à l'endométriose, à des problématiques qui sont féminines. Donc effectivement, le sport féminin, c'est la médiatisation, la visibilité de la femme dans le sport, mais ça va bien au-delà sur comment on accompagne mieux une sportive dans toutes ses spécificités.
Et comment on l'aide, le cas échéant, à libérer sa parole de victime de violences sexuelles ou de femme désireuse d'assumer publiquement sa part d'intimité, comme Astrid Guyard l'a récemment fait en révélant son homosexualité dans un documentaire de Canal+, autant de luttes qu'elle espère contribuer à faire avancer dans sa future vie.
Et les JO toujours avec les basketteurs français qui se préparent, comme nous l'explique Cédric de Oliveira pour RFI.
Pour l'instant, il profite du calme de la campagne japonaise près du mont Fuji. Peut-être l'occasion de se ressourcer. Après le début de préparation olympique très décevant, trois défaites pour les joueurs de Vincent Collet, deux face à l'Espagne et surtout une face au modeste japonais ce dimanche, 81 à 75. Il y a mieux pour se rassurer, mais l'arrière Evan Fournier estime qu'il reste du temps aux Bleus pour travailler.
Bah, par rapport aux trois défaites, ça reflète qu'il y a forcément du boulot. Après, quand on regarde bien nos matchs de préparation, c'était quand même dans un cadre très particulier. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude, mais voilà, ça montre qu'il y a plein d'axes où on peut s'améliorer et qu'il nous reste encore du chemin pour pouvoir atteindre notre meilleur niveau. La préparation, ça s'est fait pour ça. Et on peut en apprendre à condition de se rendre compte de ce qu'on fait mal. Et donc, je reste confiant, personnellement. Ah, il faut apprendre à jouer ensemble, il faut créer des automatismes, il faut se faire confiance et... Il nous reste une semaine d'entraînement environ et il faut apprendre beaucoup en vidéo parce qu'on ne pourra pas s'entraîner 2 heures tous les jours et trouver des automatismes. Mais bon, ça viendra aussi durant la compétition, avec les matchs.
L'un des tauliers de l'équipe de France de basket, Evan Fournier, premier match pour les Bleus dans ces JO. Ce sera face aux redoutables États-Unis, les favoris, dimanche prochain.
On passe au NBA avec Milwaukee qui a remporté son deuxième titre de champion après avoir gagné la sixième finale contre les Phoenix Suns, 105 à 98, 4-2 pour la série. Giannis Antetokounmpo, le géant grec d'origine nigériane, a marqué 50 points pour les Milwaukee Bucks. On l'écoute.
I started playing basketball.
J'ai commencé à jouer au basket juste pour aider ma famille, vous savez, essayer de les sortir de la misère, un problème auquel nous faisions face lorsque nous étions enfants. Mais je n'ai jamais pensé qu'à 26 ans, je gagnerais une finale NBA. Déjà, juste pouvoir en jouer une, j'étais heureux, même si je ne gagnais pas. Je voulais juste jouer au basket. Je n'ai jamais pensé qu'à l'âge de 26 ans, je serais assis ici avec ces deux beaux trophées. Quel chemin parcouru!
On passe au foot avec Monaco, troisième de Ligue 1 l'an passé, qui se prépare pour des barrages début août pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Thomas de Saint-Léger, RFI.
Pour rejoindre Lille et le PSG dans le grand tableau, les Monégasques devront d'abord écarter le vainqueur du duel qui opposera le Rapid de Vienne au Sparta Prague, deux clubs classés deuxième de leur championnat respectif la saison passée. Match aller le 3 ou le 4 août à Monaco, retour une semaine plus tard sur la pelouse de l'adversaire. Si tout se passe bien pour les hommes de Niko Kovac, il leur restera encore une étape, un dernier tour de qualification. Le plus corsé, les Monégasques pourraient y retrouver par exemple le Shakhtar Donetsk ou le Benfica Lisbonne, deux habitués de la phase de groupe. Bref, le billet n'est pas gagné, il se mérite. Et d'ailleurs, ce parcours du combattant réussit rarement aux équipes françaises. Sur les 5 dernières tentatives, un seul pensionnaire de Ligue 1 s'en était sorti. C'était déjà Monaco en 2016, le début d'une campagne historique qui avait vu Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l'époque atteindre les demi-finales de cette Ligue des Champions. En cas d'échec, le club de la Principauté serait reversé en Ligue Europa.
Le mercato Olivier Giroud, 34 ans, s'engage avec l'AC Milan et il a tenu sa première conférence de presse. On l'écoute.
Je me sens vraiment comme un enfant, même à presque 35 ans, simplement parce que quand j'étais petit, je voyais Jean-Pierre Papin, Andriy Shevchenko et bien sûr Paolo Maldini, et cette équipe me faisait rêver. J'étais aussi un grand fan de Marco Van Basten. Il y a eu tellement de grands joueurs dans cet immense club d'Europe. C'est pour ça que je suis venu et j'espère vraiment faire de grandes choses avec cette équipe.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez SBS, le programme en français.